With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier et bienvenue dans le FC Stream Team. Et pour m'accompagner comme chaque semaine, l'homme qui vient de dire juste avant la prise d'antenne, j'aurais pu me raser mais je me rase plus, c'est fini. Sachez qu'il est au bout du rouleau, qu'il a lâché la rampe, mais qu'il fait quand même cette émission avec nous. Comment ça va Maxime?
Ça va très bien Martin, c'est possiblement la dernière parce que comme tu dis, je tiens la rampe d'un doigt encore. Et ça va devenir très très compliqué parce que tenir la rampe, vu mon poids,
ouais,
je suis vraiment très attiré vers le bas. Donc je pense que c'est peut-être la dernière émission. Donc profitez-en, un conseil. On va essayer de ne pas dire de bêtises et que cette émission peut-être rentre dans la postérité parce que ce sera peut-être la dernière.
Et donc si vous voulez voir la barbe de Maxime, hein, qui donc je rappelle n'a pas pu se raser, vous pouvez aller sur eurosport.fr pour retrouver toutes les vidéos. De notre émission, de nos émissions même, j'ai envie de dire. Et Maxime, si toutefois les gens ne veulent pas s'infliger ta pilosité, ta dense pilosité, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent?
Si vous n'avez pas envie de vous infliger ça, et ce que je comprendrais très bien, vous avez rendez-vous sur les très bonnes plateformes de podcast où vous pourrez retrouver l'émission en audio et donc vous ne vous infligerez pas tout ce désagrément visuel. Alors, les bonnes plateformes de podcast, c'est quoi? C'est Acast, c'est Apple Podcast, c'est Spotify, c'est Deezer. Enfin, vous les connaissez par cœur. Le plus important, il y a deux choses. C'est que vous vous abonniez, parce que comme ça, la semaine prochaine, s'il y a encore une émission, vous la retrouverez dans votre podcast et dans vos téléphones où vous voulez. Et surtout, vous mettez note 5 étoiles. Ça, c'est hyper important parce que ça permet à l'émission de remonter et à la retrouver évidemment plus facilement. Et en plus, si vous mettez un petit commentaire, on sera aux anges et peut-être qu'on fera deux émissions de plus.
Allez, on va démarrer avec le sommaire de cette émission. On va comme d'habitude parler de toute l'actualité du football. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore le FC Stream Team, c'est le principe, parler de l'actualité, de tout ce qui fait le football. Premier sujet, Maxime, on va aborder le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel. Maxime va vous faire le discours de la méthode, va vous analyser les dernières conférences de presse de Thomas Tuchel. On va se demander aussi s'il n'est pas en train de perdre un petit peu la main, Thomas Tuchel, qui, on le rappelle, a fait finale de Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps, mais qui là est clairement dans le bouillon, comme on dit. Ce sera la première partie de cette émission. Ensuite, Maxime, on s'intéressera aux jeunes, aux très jeunes même de Ligue 1.
Oui, parce que comme vous l'avez vu, l'AS Saint-Etienne est leader du championnat avec 9 points. Et comme vous l'avez sans doute vu aussi, quand vous regardez la compo de Saint-Etienne, elle est difficile à décrypter du premier abord parce que Puel a mis un grand coup de balai dans le club et il est en train de faire monter des jeunes, mais dans une proportion qui est assez exceptionnelle. Et cette réussite estivale nous a donné envie de parler justement des jeunes et de parler, alors il y aura évidemment des Stéphanois, mais des 10 jeunes qui pour nous vont faire la saison et qui seront à suivre en Ligue 1 parce que il y a un petit vent frais aussi qui va au-delà de Saint-Etienne. Alors on est habitué évidemment à la Ligue 1, la Ligue des Talents, la Ligue des Jeunes, mais là cette année il y a quand même un truc encore plus particulier. On vous fera notre top 10 des, on a dit, les millénials, donc tous les joueurs qui sont nés après 2000 et qui pourraient peser sur cette saison de Ligue 1.
Et on terminera avec le Real Madrid qui retrouve les terrains. Ce sera dimanche en Liga. Le Real Madrid, 8e de finaliste de la dernière Ligue des Champions, champion d'Espagne aussi. Et on se posera la question à quoi il faut s'attendre dans cette saison du Real Madrid avec une intersaison un peu spéciale. Il n'y a pas eu de recrue, notamment du côté du Real, ce qui est quand même très, très, très rare. Alors le Real de Zidane et de Benzema, est-ce qu'il terminera encore champion? Est-ce qu'il sera encore champion d'Europe? Voilà, tout simplement, à quoi il faut s'attendre, de la part du Real Madrid. Ça commencera dimanche et nous, on en parlera dès aujourd'hui avec Maxime. Maxime, on démarre tout de suite peut-être avec Thomas Tuchel. Je sais que c'est un sujet. Maxime, pour rien vous cacher, ça fait quelques jours qu'il me dit, Martin, il faut qu'on parle de Thomas Tuchel dans le FC Stream Team. Il faut qu'on en parle vendredi. Parce que ça ne vous aura pas échappé que le Paris Saint-Germain connaît un début de saison très compliqué. Il y a eu une défaite à Lens, puis une défaite face à Marseille, et enfin une victoire, mais à l'arraché sur un but de Draxler, après une nouvelle prestation très timide, si on veut rester poli, du côté du Paris Saint-Germain. 3 points en 3 matchs en Ligue 1, c'est peu, c'est très peu, c'est trop peu pour Paris qui, rappelons-le, a fait finale de Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps. Et dans l'œil du cyclone, celui qui pour l'instant est désigné comme le principal coupable de ce début de saison très poussif, eh ben, c'est Thomas Tuchel. Maxime, est-ce que pourquoi Thomas Tuchel déjà est dans la nasse? Est-ce que Thomas Tuchel est en danger? Thomas Tuchel, Maxime, tout simplement, qu'est-ce que tu en penses là depuis quelques jours, depuis la semaine qui vient de s'écouler du côté de Paris?
Bah déjà, il y a quelque chose qui m'inspire, c'est que être entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est un métier quand même très très difficile. On l'a vu depuis que tu es ici là. Ça a commencé avec Comboiré qui n'était pas assez dimensionné, on va dire, pour le poste. Rappelez-vous Ancelotti, rappelez-vous de décembre 2012 où le Qatar a des doutes sur Carlo Ancelotti. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que PSG joue à Nice dimanche. C'était à Nice, après un match à Nice aussi qui avait tous ses doutes. Vous avez entendu, d'ailleurs, j'ai dit à 10 dimanche, c'est l'habitude en ce moment avec le PSG qui ne termine pas au complet. On l'a vu, c'est un métier très compliqué, Laurent Blanc, Emery, etc. Et Tuchel, bah, il n'échappe pas à ça, parce que Tuchel, paradoxalement, il vient de faire une finale de Ligue des Champions, c'est le meilleur accomplissement de l'histoire du club, mais pourtant, il y a toujours ce doute qu'il y a autour de sa personne, et qui a évidemment été renforcé par l'après-finale, et peut-être même par la finale. Mais il y a un élément aussi qui rentre en ligne de compte pour comprendre un peu tout ça, c'est évidemment Leonardo qui n'est pas rien dans l'équation Tuchel. On le sait, Leonardo et Tuchel, ça fonctionne correctement. Voilà, ça ne va pas plus loin, c'est une relation professionnelle. On sait aussi très bien que Leonardo, quand il est revenu au PSG, c'est pour avoir les pleins pouvoirs sportifs. Et qui dit les pleins pouvoirs sportifs, c'est aussi choisir un entraîneur qui lui va. Et pour lui, Tuchel, c'est entre le caillou dans la chaussure et l'atout. C'est-à-dire que lui, s'il pouvait... Il nommerait un homme comme Allegri, évidemment, parce que c'est un homme de c'est la filière italienne, et c'est un homme qui correspondrait à ce qu'il veut. Donc, en gros, la relation entre Tuchel et Leonardo, elle est juste professionnelle, et on sent que c'est sur un fil et qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça bascule. Et on l'a vu cette semaine, la défaite face à l'Olympique de Marseille dimanche dans une atmosphère un peu surréaliste sur le terrain et en conférence de presse, on en parlera juste après. Et évidemment, comme tu l'as dit, ce PSG Metz qui avait aussi quelque chose de surréaliste, parce qu'encore une fois, que le PSG est plein d'absents, que le PSG soit touché par la guigne en ce moment, Bernat, la blessure, qu'il y ait des expulsions, ok, mais que l'expression collective du Paris Saint-Germain sur un match comme ça soit aussi faible face à Metz, avec tout le respect que j'ai pour Metz, n'est évidemment pas normal. Donc, je ne pense pas que Tuchel soit en danger tout de suite, parce que encore une fois, on est en pleine crise du Covid. Le virer, ça signifierait lâcher entre 10 et 15 millions d'euros, donc c'est pas rien. N'empêche que j'ai quand même l'impression que son temps est un peu compté au Paris Saint-Germain, et surtout qu'il est en train de le sentir.
Prenons ces dernières conférences de presse qui sont un peu surréalistes et qui ont pas mal fait réagir. Depuis une semaine, à Paris, on a cultivé l'excuse. Voilà, il y a la culture de l'excuse pour tout et rien. L'arbitrage. Il y a eu la chance aussi. Tuchel a quand même dit l'OM a eu toutes les chances du monde.
Ouais. Je peux peut-être lire les déclats d'ailleurs.
Ouais, vas-y.
Parce que c'est vraiment un point important et on reviendra dessus. Alors, je les lis. Donc ça, c'est après l'Olympique de Marseille, après la défaite. Donc, j'ai tout aimé. On n'a pas marqué, mais on a contrôlé le match. On a joué avec une bonne structure. On a passé notre temps dans le camp adverse. Marseille n'a récupéré qu'un ballon dans notre partie de terrain. Les stats sont extraordinaires pour un match comme ça. Notre domination était complète. Ils ont juste eu de la chance. Après, PSG Metz. Je suis très fier. C'est incroyable, honnêtement. Je dois encore y réfléchir, car je ne peux toujours pas y croire. Tous les supporters peuvent être fiers. On a encore mérité de gagner. À 9 contre 11, c'est très, très fort. Alors, je suis désolé, j'ai rigolé un petit peu, mais là, on a l'impression qu'il a gagné la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il a juste battu Metz. Alors, si je puis me permettre, avant que tu redémarres, l'impression que j'ai sur ces deux conférences de presse, c'est qu'il est, dans une situation psychologique qui est compliquée, tout simplement. Et vous savez, ça me fait un peu penser à Silvinho l'année dernière qui tape dans tous les mains des supporters de Lyon avant le derby. C'est-à-dire qu'il est en train de tout surjouer et que ça dénote quand même quelque chose. Alors, je ne vais pas dire qu'il est en train de perdre les pédales, mais qu'il y a un petit manque de lucidité. Parce que l'histoire des statistiques face à l'OM, moi, je vais lui rappeler qu'il y a juste une statistique qui compte à l'arrivée. Malheureusement, pour lui, c'est le score. Il a fait un but à zéro. La domination complète, ça, on peut revoir. Moi, j'aurais envie qu'il nous parle de l'état d'énervement et d'excitation de ses joueurs qui n'est pas normal. Alors, évidemment, c'est l'Olympique de Marseille. L'OM a cherché un peu en début avant le match, avec Payet, avec tout ça. Mais ça ne mérite pas de s'énerver comme ça. Et on sent qu'il y a un truc qui est plus profond et que lui, pour le coup, il contrôle plus tellement tout ça. Et encore une fois, mercredi...
Il est plus en prise avec la réalité.
Ouais, exactement. Et c'est ça qui est inquiétant. Et pour le coup, alors, on pourra dire qu'il est allemand, il parle en français, donc on n'a pas toujours la même granularité d'expression.
Non, parce qu'il a toujours été bon dans sa com.
Oui, exactement.
Il a souvent été bon.
Et là, le coup du « laissez-moi réfléchir », c'est extraordinaire. Je ne peux pas imaginer qu'il s'est couché comme après une finale de Coupe du Monde remportée. Ce n'est pas possible. Donc, il y a quelque chose, comme tu dis, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a un truc, il est en train de perdre pied avec la réalité et quelque chose lui échappe. Voilà, je suis désolé. Je te laisse la parole, Martin.
Ouais, toi, tu fais penser à Silvinho. Moi, cette culture de l'excuse, donc je reviens là-dessus, que ce soit l'arbitrage, la chance, le calendrier, parce que quand ils ont perdu après Lens, on a parlé du calendrier, des blessés, l'effectif un peu court. Moi, ça me fait penser à Rudy Garcia à la fin de son mandat avec Marseille. C'était un peu la même chose. À chaque conférence de presse, on avait l'impression qu'il était loin de la réalité, de ce qu'on voyait sur le terrain, qu'il se réfugiait toujours derrière des écrans de fumée. Et des écrans de fumée qui n'étaient pas franchement convaincants. Et là, avec Thomas Tuchel, c'est cette impression que j'ai aussi. Et puis aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il est à fleur de peau.
Oui,
il
exactement.
Est à fleur de peau. On sent qu'il est tendu. On sent, et tu le dis très bien, et tu as tout à fait raison, c'est que derrière, il y a un rapport de force avec Leonardo qui sait que s'il s'engage beaucoup plus nettement, ce rapport de force, il ne sera pas à son avantage, Tuchel. Donc, on sent qu'il est vraiment sur un fil et qu'il est sur les nerfs. Après, sur les blessés, sur la justesse de l'effectif, on ne peut pas s'empêcher qu'il fait aussi, sans doute, passer des messages. Malgré tout, le fait qu'il tourne un petit peu en rond en ce début de saison, Thomas Tuchel, alors ça va être intéressant de voir ses conférences de presse après le match, notamment face à Nice. On verra ce qu'il dit, on verra comment il s'en sort, mais on sent qu'en tout cas il est dans une période très compliquée, très délicate, et en filigrane, malgré ce que disait Leonardo au Canal Football Club il y a deux semaines, on sent qu'il y a un rapport de force entre les deux. C'est pour ça qu'effectivement Tuchel est, j'ai envie de dire, fébrile, en fait. Simplement, c'est simplement de la fébrilité pour moi.
Mais c'est ce que tu dis au niveau de l'agacement, c'est-à-dire ces fameuses conférences de presse. C'est un peu quand quelqu'un est agacé qui veut surjouer quelque chose, un peu de mauvaise foi, pour contredire l'interlocuteur qui va à l'inverse de lui.
Tu sais de quoi tu parles quand tu parles de mauvaise foi, Maxime.
Ouais. Non, mais voilà, non, mais oui, parce que je suis très bien placé pour ça. Donc je vois très bien que. Et alors, pour pas délivrer de secret, on avait une journaliste qui était en conférence de presse. Sacha Beckerman, pour ne pas la citer, et qui nous a dit qu'au moment où il fait cette sortie sur l'OM en disant « ils n'ont eu que de la chance, on a été extraordinaire dans les stats », apparemment, dans la salle de presse, tout le monde se regarde, il y a eu comme un blanc. Voilà. Ça dit quelque chose. Je veux dire, quand tout le monde qui est là se dit « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de dire ?», c'est qu'il y a un petit souci. Pour ce qui est de l'effectif, je suis d'accord avec toi, mais alors là, justement, je vais un petit peu le défendre là-dessus, parce que là où j'ai du mal à le défendre, c'est que sur le terrain, on a l'impression qu'il n'y a pas de plan B, tout simplement. C'est que c'est un plan A, c'est Neymar, c'est Mbappé, Icardi quand ça va bien, ou Di Maria et les autres qui font le job. Mais après, il est quand même un petit peu victime de l'effectif, c'est-à-dire que là, pour le coup, on en a parlé la semaine dernière, cet effectif-là, on le redit, il est mal bâti, c'est-à-dire que vous avez un 11 qui est d'une qualité absolue. Puis derrière, ça devient plus compliqué, notamment, on l'a vu avec les attaquants. Les attaquants, aujourd'hui, il n'en reste que 3. C'est assez hallucinant. Alors, il est aussi victime de ça avec Leonardo, qui, pour le coup, c'est son job, Leonardo, de bâtir un effectif, si possible, qui colle avec les desiderata de Thomas Tuchel. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, à qui la faute ? C'est la crise aussi, tout simplement. Je pense que le Paris Saint-Germain ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut rappeler qu'ils ont dépensé 50 millions sur Icardi. Donc aujourd'hui, le PSG est un peu coincé. Bon, on ne va pas tirer la sonnette d'alarme parce que Mbappé va revenir. Neymar, quand il sera plus suspendu, va revenir. S'il y a un problème côté gauche, latéral gauche, parce que la grave blessure de Bernat et la suspension de Kurzawa. Mais le PSG va se remettre dans le sens parce que le plan A du PSG en Ligue 1, il marche, il fonctionne, il a même marché en Ligue des Champions.
Et le vrai problème. Même le plan Z, il marche en Ligue 1.
Oui, évidemment. Enfin, justement, là, j'ai plus de doutes maintenant depuis cette semaine. Et encore une fois, là, on le dit maintenant, je pense qu'on ne prend pas de risque. On aura l'air malin si Saint-Etienne est champion de France. Mais en tout cas, on va vous le dire, l'OM. Le Paris Saint-Germain a des grosses chances d'être champion de France, même avec ce retard-là. Parce que ça va revenir. Et puis, c'est trop déséquilibré. Mais n'empêche, c'est quand même fou. En fait, j'ai l'impression que la Ligue 1, comme longtemps en Ligue des Champions avec le PSG, c'est un leurre. C'est-à-dire que ça fonctionne quand tout le monde est là, parce que c'est normal que ça fonctionne. Et quand il commence à y avoir des difficultés, avant c'était en Ligue des Champions, où là d'effectif, on se rend compte que derrière, il manque quelque chose. Mais et c'est assez fou que personne ne règle ce problème depuis tout ce temps au Paris Saint-Germain.
Là, tu touches quand même une limite de Tuchel. Et moi, plus que son discours, plus que ses excuses, plus que tout ce qu'on a dit jusqu'ici, Tu touches à pour moi une limite de Tuchel quand même là, sur la progression de l'effectif quand même. Tuchel, quand il vient, on le vend quand même comme bon, quelqu'un qui a absolument réussi en Allemagne, comme un adepte de Guardiola, quelqu'un qui fait grandir les jeunes. Dans le Zeit en 2015, il dit j'ai un style de jeu actif, une défense audacieuse, des combinaisons rythmées en attaque. Est-ce qu'il y a une patte Tuchel dans ce Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il y a déjà eu une patte Tuchel dans ce Paris Saint-Germain? Parfois, dans la construction des 11, on sent une patte, quelque chose de très voilà, tactique, Marquinhos au milieu, etc. Mais est-ce que dans le jeu, on voit une patte Tuchel? Tu le disais tout à l'heure assez bien, c'est qu'on a l'impression quand même que le plan de jeu, c'est on donne le ballon à Neymar, on compte sur l'accélération de Mbappé ou sur la galette de Di Maria. Moi, c'est là-dessus que j'ai envie d'attaquer Tuchel, peut-être. Et même quand on a vu quand on a analysé le parcours en Ligue des Champions, quand on a écrit des articles tous dessus, qu'on a fait des vidéos, qu'on a commenté, etc., on a insisté sur quoi? Sur l'état d'esprit du Paris Saint-Germain, sur la notion de groupe, peut-être sur le coaching de Thomas Tuchel aussi, Choupo-Moting, ou les entrants qui font la différence, notamment face à l'Atalanta. Mais si on n'a pas Tuchel sur ce qu'est ce Paris Saint-Germain, sur ce qu'il propose sur le terrain, sur son expression collective, comme tu disais tout à l'heure, et pas que face à Metz. Pour moi, il y a une vraie limite, et c'est peut-être là-dessus que j'ai envie d'insister, parce que la direction du Paris de Tuchel, la direction, l'idée, c'est dur à voir, c'est dur à analyser. Est-ce qu'il a fait grandir les jeunes? Bah, j'ai pas l'impression. Est-ce qu'il a fait progresser les joueurs sous sa direction? Je sais pas. Et pour moi, il est là le vrai problème sur quelqu'un en plus qui venait avec une réputation quand même assez flatteuse. Voilà, pour moi, il est là le principal problème de Tuchel aujourd'hui. C'est peut-être ce qu'on pourrait lui reprocher de principal, quoi.
Et ce que tu dis sur le jeune est très vrai, c'est-à-dire que je pense que quand le Paris Saint-Germain va le chercher, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a joué avec une équipe jeune à Dortmund, qui sait y faire. Et on a vu que le Paris Saint-Germain, s'il n'a pas toujours maximisé son effectif, c'était du côté des jeunes. On ne va pas vous faire la liste des joueurs qui sont partis, qui ne se sont pas sentis en confiance. Donc c'était aussi l'idée de changer l'image. Alors on a vu que c'était sûrement plus compliqué que ça, parce que quand Kouassi s'en va, on ne peut pas dire qu'il manque de temps de jeu, c'est simplement qu'il n'a peut-être pas confiance, donc ça demande plus de temps. Quand il arrivait au début, souvenez-vous des pré-saisons, des débuts de saison, il n'avait pas toujours le choix aussi, mais il faisait jouer les jeunes. C'était très bien. On se dit, enfin un qui a compris. Alors, soit les jeunes ne sont pas du tout au niveau Paris Saint-Germain pour tenir la distance sur une saison, on ne peut pas leur faire confiance quand il y a besoin, soit ce n'est pas bien utilisé. Et donc, le problème, il est là aussi, c'est-à-dire que le trou aujourd'hui qu'il y a dans l'effectif, parce que, encore une fois, on est dans une situation complètement surréaliste avec le Covid. Évidemment que ça n'arrive jamais d'avoir autant d'absents, parce que ce qui leur arrive, c'est vraiment pour le coup la faute à pas de chance, et c'est vraiment l'année 2020. Mais n'empêche qu'il n'est pas normal de devoir aller puiser aussi profond dans un effectif et chez des jeunes pour faire le nombre. Et il y aurait dû avoir ces jeunes ou ces joueurs intermédiaires qui auraient permis au Paris Saint-Germain de s'en sortir un peu mieux, sûrement contre le Marseille et surtout contre Metz mercredi.
Tout à fait. Je crois qu'on a fait le tour, Maxime, du sujet Paris Saint-Germain. Tu parlais des jeunes. C'est une bonne transition. Franchement, transition man, Maxime Dupuis. Maxime, transition Dupuis.
Tout est préparé.
Parce qu'on va parler. Tout est préparé, évidemment. Je te connais. On va parler des jeunes, justement, et des millennials de la Ligue 1. Les millennials, c'est quoi? Ce sont ces joueurs nés en 2000 ou après 2001-2002. Alors, au-delà de 2002, c'est un peu plus compliqué, quoique, hein, ça va pas tarder à arriver. Ce sont ces jeunes qui sont en train d'exploser en Ligue 1, en ce début de saison ou même un peu avant. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui de la Saint-Etienne, leader de Ligue 1, avec 9 points, 3 matchs, 3 victoires. Et Claude Puellier, qui au Vélodrome encore lance des jeunes, mais à tire-larigot. Aouchiche, Fofana sont les deux jeunes les plus, j'ai envie de dire, connus aujourd'hui de la Saint-Etienne, mais il y a Neyou, enfin, il y en a plein de jeunes, plus ou moins connus, plutôt pas connus, même du côté de la Saint-Etienne, et qui revigorent un petit peu cette Ligue 1. Hier, le match était splendide, hein, face à Marseille, et porte les équipes de Ligue 1. Alors, on parle de Fofana à Saint-Etienne, il y en a d'autres, hein, notamment à Rennes. On a décidé avec Maxime de faire notre top 10 des millennials de la Ligue 1. Les 10 joueurs sur lesquels on mise le plus d'espoir. Alors, pour bien comprendre comment on a construit ce top 10, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des millennials, beaucoup plus que vous l'imaginez, on cherche quand même des jeunes qui ont montré quand même quelque chose déjà chez les professionnels, donc pas que des promesses qu'on attend depuis des années. Non, c'est des jeunes qui ont quand même prouvé quelque chose, ou alors vraiment le jeune dont tout le monde parle et qui a juste quelques matchs de Ligue 1. Mais voilà, il faut quand même qu'il ait montré un petit quelque chose chez les professionnels. Maxime, c'est ouais. toi qui vas démarrer avec notre numéro 10. Et c'est un Strasbourgeois.
Ouais, un Strasbourgeois, Mohamed Simakan. On l'a vu beaucoup l'année dernière au poste de latéral droit où il a réussi une excellente première saison. On l'a revu cette saison déjà sur les trois premiers matchs. À des postes différents, on l'a vu défenseur central droit, on l'a vu au milieu de terrain. Donc c'est un joueur qui est polyvalent et qui est déjà dégage quelque chose. Et a priori, ce sera un des hommes à suivre cette saison. Alors évidemment, déjà, il y a des clubs qui le suivent, évidemment Monaco, l'AC Milan. Lui, apparemment, il ne sait pas trop s'il a envie de partir. Mais en tout cas, on a l'impression aussi, et c'est sans doute, sans rien dévoiler, quand même un point commun de tous les jeunes qu'on va un peu présenter. Ça aide évidemment, c'est une forme de maturité. Il faut savoir que c'est un joueur qui en 2018 s'est fait une rupture des ligaments croisés, ce qui est une blessure quand même très grave à cet âge-là. Il est revenu et pour l'instant, Strasbourg n'a qu'à se féliciter de lui. Et nous, on a vraiment envie de le suivre toute cette saison, où qu'il sera. Mais on souhaite à Strasbourg qu'il reste évidemment parce que c'est vraiment un joueur à suivre.
Numéro 9, El Bilal Touré, hein, l'attaquant de Reims. Lui, c'est peut-être celui qu'on a le moins senti venir. Il est arrivé à Reims l'hiver dernier. Au départ, c'était pour jouer avec l'équipe réserve. Très vite, il a intégré non pas seulement l'effectif, mais le 11 de départ même hein, de Reims, qui a fait une super saison l'année dernière. Hein. Reims qui est en Europe, hein, rappelons-le, cette année. El Bilal Touré qui a joué d'ailleurs hier en Ligue Europa. 18 ans, donc c'est même pas un 2000, hein, c'est un 2001. Il est né le 3 octobre, hein, comme tous les grands de ce monde, Zlatan Ibrahimovic et d'autres, je vous laisserai chercher. Il a déjà une CAN U20 qu'il a gagnée avec le Mali. Il était dans l'équipe type, même s'il a jouer de cette compétition blessé. Et surtout, c'est quelqu'un, bon, il a les deux pieds, il va vite. Je crois qu'il en est déjà à 4 buts en 10 matchs, plus une passe décisive. Mais c'est surtout le côté météorique, j'ai envie de dire. Là, c'est le côté fulgurant de son ascension qui nous a marqué. Il y a l'OM hein, qui est sur lui. Il y a beaucoup de clubs qui le suivaient avant qu'il arrive à Reims. Mais il a tout de suite explosé. Il vient du Mali, hein. Donc il ne connaissait pas la France, il ne connaissait pas l'hiver, il ne connaissait pas tout ça. Il s'est adapté avec une facilité dingue. Et El Bilal Touré, je peux vous dire, je ne pense pas que vous le découvrez avec notre émission, mais si vous le découvrez aujourd'hui, allez voir quelques-uns de ses matchs. Et ça vaut le coup de regarder Reims, rien que pour lui cette année.
Est-ce qu'on peut dire que les personnes nées le 3 octobre ont du pif ?
Elles ont du pif. Elles ont du pif, Maxime. T'as bien reconnu. T'as bien reconnu les personnes du né le 3 octobre.
Alors le 8e, Ryan Ait Nouri, eh ben lui, pour le coup, on a très envie de le revoir parce que ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu sur le terrain. Souvenez-vous, janvier, il se fracture la mâchoire, blessure très grave et très spectaculaire pour le coup. Début de saison avec Angers, manque de peau, positif au Covid. Donc du coup, a priori, ce sera pour ce week-end qu'on devrait le revoir en Ligue 1. On a très envie de le revoir parce que c'est un latéral gauche qui détonne et qui est déjà sur les tablettes des plus grands et aussi conseillé par les plus grands. Si vous ne le savez pas, son agent s'appelle Jorge Mendes et Jorge Mendes, c'est pas n'importe qui dans le monde du football. Donc lui, s'il a senti qu'il y avait quelque chose, on peut lui faire confiance. Et autre chose, alors là, le coup n'est pas passé loin, Eric Abidal avait très envie de le faire venir au FC Barcelone avant de quitter le club. Donc vraiment, suivez-le, parce que je ne suis pas certain qu'il reste très longtemps en Ligue 1, mais Ait Nouri, c'est quand même un super joueur et un des mecs très prometteurs. C'est pour ça qu'on l'a mis à la 8e place de notre top.
S'il est toujours là le 6 octobre en Ligue 1, ce serait une très bonne nouvelle, hein, parce que ça s'annonce très très compliqué, donc peut-être qu'il ne sera plus dans ce top 10
de Mercato. C'était un top qui est compliqué à faire à cause de ça aussi, parce que comme le mercato est encore ouvert et qu'évidemment le marché des jeunes est très fluctuant, on peut imaginer qu'il y en a 2-3 qui ne seront plus là à la clôture.
Lui sera toujours là, le numéro 7, parce qu'il vient de changer de club, il est passé de Lyon à Nice, c'est Amine Gouiri. Alors Amine Gouiri, on a mis 7e, on aurait pu peut-être le mettre un peu plus haut, mais vous verrez que ça se resserre franchement haut, mais Amine Gouiri, bon, déjà, c'est la formation lyonnaise, avant-centre lyonnaise, ça pose les jalons. Ensuite, c'est 38 buts en sélection de jeunes. Alors, je me demande, Maxime, toi qui es une mémoire vivante de l'équipe de France, je me demande s'il y a déjà eu des jeunes qui ont marqué autant de buts que ça, mais déjà, ça signifie quelque chose. Ouais. C'est un cadre à chacune des sélections de jeunes, à chaque catégorie d'âge. Mais surtout, à Nice, c'est déjà le meilleur joueur cette saison, alors qu'il vient tout juste d'arriver. Il y a Gérard Bonneau qui est l'ancien chef recruteur des jeunes pépites lyonnaises, qui nous disait à son sujet que s'il y avait un crack, c'était Amine Gouiri qui l'empilait les buts. C'était lui qui avait un profil hyper, hyper précieux. Et Fred Guéra, qui est un agent aussi qui connaît très bien le milieu lyonnais, lui, le comparait à Alassane Plea. Voilà, c'est ce genre de joueur qui n'a pas eu l'espace d'expression nécessaire du côté de l'Olympique lyonnais, qui a dû partir, un peu comme Plea, et qui va sans doute exploser cette année. On peut en prendre le pari. Lyon a misé sur Toko Ekambi, et aussi Gouiri s'est blessé au mauvais moment. C'était en 2018, au début de la saison. En 2018, il s'est fait les ligaments du genou au moment où on commençait à lui donner sa chance dans le groupe professionnel. S'il n'avait pas eu cette blessure, il serait déjà peut-être beaucoup, beaucoup plus haut dans ce classement. En tout cas, Amine Gouiri, 20 ans, avant-centre, il va faire très, très mal cette saison. Il est bon dans le jeu, il est bon dans la surface, il est bon dans la finition. Profil complet, suivez-le de très, très près.
Le numéro 6 joue à Monaco. Le numéro 6 a déjà marqué 2 buts en début de saison. Et non, pourtant, il n'est pas attaquant. C'est Benoît Badiachile. Vous l'avez déjà vu sur les terrains. Vous avez sans doute en mémoire cet épisode un peu marquant avec Thierry Henry après une conf de Ligue des Champions qui lui demande de ranger sa chaise. Voilà, c'était pas tombé sur le bon personnage parce que c'est pas le genre justement à ne pas ranger les chaises. Benoît Badiachile, c'est un garçon avec une tête bien faite et qui a un avenir très très prometteur. Gaucher, 1m92, il en impose et en plus il peut marquer des buts si bien qu'aujourd'hui on parle de lui comme le nouveau Varane. Alors évidemment, des nouveaux Varane, des nouveaux Zidane, etc. Il y en a des tonnes, mais lui, il a vraiment quelque chose de particulier. Et il aura évidemment cette année, dans cette équipe de Monaco qui intrigue, qui intéresse, un rôle très important à jouer avant sûrement d'aller voir vers d'autres cieux. Et en tout cas, suivez-le de très près. Cette saison pourrait être la sienne.
Le numéro 5, c'est peut-être celui qui a montré le plus de choses depuis qu'il est professionnel dans notre top 10. Déjà 98 matchs chez les pros, 48 buts à 20 ans. À 20 ans. C'est Jonathan David, c'est le transfert le plus cher de l'histoire du LOSC, c'est le transfert sortant le plus cher de l'histoire du championnat belge. Il jouait à la Gantoise jusqu'ici. Tout le monde était sur lui cet été, enfin tout le monde. United, Arsenal. Et quand Luis Campos s'intéresse à vous, bah, c'est que généralement vous avez un petit quelque chose en plus, hein, parce que Campos, il se trompe assez rarement. C'est un talent fou, Jonathan David. Il a déjà 12 sélections et 11 buts avec la sélection canadienne. Alors, ce n'est pas la sélection la plus impressionnante dans le monde, mais malgré tout, quand même, malgré tout, ça signifie quelque chose. Jonathan David, il a eu des débuts un peu compliqués avec Lille. Hein. On s'attendait tout de suite à ce qu'il casse la baraque. Il a un nécessaire temps d'adaptation, mais son potentiel, il a assez peu de limites, en fait. Hein. Pour avoir parlé avec de nombreux journalistes belges, notamment lors de Mercredi Mercato, à propos de ce joueur-là, il faut s'attendre quand même à avoir un phénomène. Alors, il met un peu de temps. Voilà. Alors, laissons-lui le temps, mais il a déjà des statistiques et une carrière derrière lui qui lui valent le top 5 dans notre classement.
Le quatrième est lyonnais. On va y arriver parce qu'évidemment, les Lyonnais sont là. C'est Ryan Cherki. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez vu Mbappé, la première fois que vous avez vu Benzema, vous avez dit il y a quelque chose de différent. Ryan Cherki, il a 17 ans. Ryan Cherki, notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Eurosport en Coupe de France, face à Nantes, doublé de buts, doublé de passes décisives, c'est évidemment exceptionnel. Il a 17 ans, c'est un phénomène. Aujourd'hui, Cyril Morin sur Eurosport a parlé d'évidence Cherki. On pourra dire ce qu'on veut des journalistes, des fois ils exagèrent, mais là Cyril il n'a pas exagéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de se dire que ce type qui a 17 ans est une évidence à Lyon, alors que pour le moment, le mercato n'a pas fait encore tous les ravages escomptés. Donc voilà, il a quelque chose de différent, quelque chose de plus. C'est très compliqué d'expliquer le quoi, mais quand on le voit sur le terrain, on se rend compte que ce type-là a ce petit truc en plus. Alors évidemment, on ne sait jamais comment bien lancer dans le bain des joueurs, surtout de cet âge-là. Encore une fois, il avait 16 ans l'année dernière. Il faut y aller à petite dose, mais lui, on sent que l'accélération n'est pas très loin et qu'il va très très vite se faire sa place, peut-être même titulaire au sein de cet Olympique lyonnais. Ryan Cherki, c'est peut-être celui qui a l'avenir le plus prometteur dans toute cette liste qu'on vous a donnée et qu'on est en train de vous donner pour le moment.
En numéro 3 sur le podium, je vous invite à voir sa performance hier lors de Marseille-Saint-Etienne. C'est Wesley Fofana, défenseur central des Verts. Regardez ses matchs, tout simplement. En un an seulement, il s'est installé. C'est déjà le patron derrière à Saint-Etienne, au milieu des Debuchy, des Colodziejczak, et même l'an dernier hein, avec Perrin, avec Ruffier. De la tête, c'est injouable. 1m90, c'est injouable. Hier, les Marseillais en ont fait les frais. Il a une relance incroyable, jeu long, jeu court. Son match d'hier, il est incroyable, mais c'est toute sa saison, hein, même tout son début de saison. Là, hein, finale de Coupe de France face au PSG, il avait été souverain. Et pourtant, il a annoncé qu'il voulait quitter les Verts. Donc ça, on dit aussi long sur le caractère du bonhomme, ce qu'il a dans la tête. Et tu disais, Maxime, au début de ce top 10, une certaine forme de maturité aussi, des jeunes qui n'ont pas peur. ils savent déjà le niveau qu'ils ont, ils ne doutent pas. Et ça, c'est assez incroyable. Si on devait prendre un exemple, bah, c'est Wesley Fofana. On rappelle, c'est la génération dorée de Saint-Etienne hein, qui a gagné la Gambardella, avec notamment Saliba. Si Leicester aujourd'hui est prêt à mettre 30 millions d'euros sur lui, bah, c'est pas un hasard. Si l'AC Milan est prêt à lui dérouler le tapis rouge, c'est pas un hasard non plus. Fofana, on va en entendre parler pendant très, très, très longtemps. Poste de défenseur central, on avait envie de le mettre aussi en valeur parce que c'est pas un offensif. Et généralement, on met plutôt en valeur les offensifs. On espère lui aussi qu'il restera en Ligue 1 jusqu'à la fin de ce mercato et encore une saison parce que Claude Puel peut en faire vraiment une référence au poste à 19 ans seulement en Ligue 1. Donc, il se devait d'être sur le podium, Wesley Fofana.
À la deuxième place du podium, encore un Lyonnais, évidemment. Et cette fois, c'est Maxence Caqueré. Il n'est pas très épais, il n'est pas très grand, mais je peux vous dire qu'il en impose depuis le début de sa carrière professionnelle, qui est toute jeune. Et là, pour le coup, lui, il n'y a pas que la France qui le sait, il y a l'Europe. Parce qu'on l'a vu avec Lyon, il a été l'un des hommes clés du bon parcours lyonnais, de l'excellent parcours lyonnais, même en Ligue des Champions. Maxence Caqueré, il a un modèle, c'est Iniesta, voilà, tout simplement. Déjà, ça vous pose un peu ce qu'il aime faire et l'intelligence situationnelle qu'il dégage déjà à son âge est quand même pas loin d'être exceptionnelle. Je reviens toujours sur la même histoire, la maturité, c'est important. Et être mûr comme il est à ce poste-là, parce qu'un attaquant, on ne lui demande pas forcément d'être mûr à 17 ans, on lui demande d'aller vite, d'être fort devant le but. Lui, il faut réfléchir et faire attention à tout ce qu'il fait. Il court beaucoup, il gratte des ballons, il fait la bonne passe qui va, il a vraiment quelque chose en plus, et c'est pas pour rien, encore une fois, qu'il incarne l'avenir de l'Olympique lyonnais, qui, on ne le répétera jamais assez, a un réservoir quand même exceptionnel. On a l'impression qu'il sorte un jeune d'exception ou un futur grand joueur. Tous les 4 matins, c'est formidable. Maxence Caqueré, deuxième de notre classement, derrière, évidemment, j'allais dire évidemment, mais l'évidence, parce que lui, on ne pouvait pas le mettre ailleurs, pour le coup.
Non, on ne pouvait pas le mettre ailleurs. C'est le plus jeune hein, de notre classement.
C'est le plus jeune, et il est international.
17 ans, 2002, c'est le plus jeune, il est international. Jusqu'ici, on a vu d'excellents joueurs, on a vu des potentiels sensationnels, on en a vu qui feront des carrières énormes en club et même en bleu. Lui, pour moi, c'est différent. Parce que des joueurs comme Eduardo Camavinga, il n'y en a qu'un seul dans une génération. Et quand je parle de génération, je ne parle pas d'une année. Hein. Je parle de plusieurs années, d'une génération. Quoi. Voilà. Il sera un jour ou l'autre l'étendard de sa génération, de son club, sans doute même de l'équipe de France. Parce que on voit ce qu'il montre depuis un an maintenant que Julien Stéphan l'a propulsé titulaire du côté du Stade Rennais. Tout coule sur lui, tout semble facile. Il découvre les bleus, il est tranquille. La Ligue 1, il est tranquille. En ce début de saison, il a même montré que c'était pas seulement un milieu récupérateur, qu'il pouvait mettre des buts assez sensationnels à base de dribbles, à base de petites frappes dans le petit filet. Son futur à lui, il ne fera aucun doute. Il ne fait déjà aucun doute d'ailleurs. Ce sera sans doute le Real ou un club équivalent. Donc des clubs équivalents au Real, bah, il n'y en a pas 100. Ce sera les bleus aussi. En fait, le dernier à m'avoir fait une telle impression, c'est Mbappé. Voilà. Il y a eu Mbappé, il y a aujourd'hui Camavinga, et le prochain, ce sera dans quelques années. Parce que des comme lui, il n'en sort pas tous les jours, il n'en sort même pas tous les ans. Et c'est pour ça que Camavinga a quand même une nette avance sur tous ceux dont on a parlé jusqu'ici. Parce que lui, déjà, il est installé, et parce que son potentiel est absolument fantastique. Voilà, il y a eu Mbappé, il y a Camavinga, et je crois que ce numéro 1, il faisait absolument aucun doute. Alors, il y en avait d'autres. Maxime, on aurait pu parler de Chotard, on aurait parlé de Tchouaméni aussi, on aurait pu parler de... Voilà, il y en a plein en Ligue 1. On a choisi ces 10-là, ouais. Maxime, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, ce qui est fascinant, alors je vais dire le contraire de ce qu'on vient de dire, c'est que dans ces 10-là, il y en a peut-être la moitié qui ne fera pas la carrière escomptée qu'on imagine. C'est ça qui est formidable dans le football. C'est-à-dire que, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Camavinga, il y a 2 ans, vous ne l'aviez pas vu arriver. Cherki, il y a 2 ans, 3 ans, vous ne voyez pas arriver. Et justement, c'est ça qui est exceptionnel. C'est que le futur grand joueur qui arrivera, vous ne le verrez pas arriver. Et c'est ça qui est beau dans le sport. Toute cette incertitude, et on le redit, je le redis, ce n'est pas un conseil que je leur fais, ils sont assez grands pour ça. C'est aussi dans la caboche qu'il faudra être solide parce que dans les jambes, là, ils ont tous du talent plein les pattes. Il faudra aussi être fort et on suivra ça. Et ce serait marrant dans 5 ans de reprendre ce top et de dire bah, lesquels ont fait ce qu'ils voulaient et ce qu'on espérait d'eux. On verra.
Allez, on prend rendez-vous dans 5 ans. J'espère que vous serez là.
J'espère même jour, même heure, même port.
On sera toujours là. A priori, ça devrait aller quand même.
Ah, écoute, j'espère. Tu sais, on ne sait jamais. Hein.
On ne sait jamais.
On n'est pas à l'avouer, on a mauvais coup. Hein. Il faudra repasser cette séquence-là, hein, du coup. Quand
arrête, c'est horrible. On passe au troisième sujet de cette émission et on va parler du Real Madrid qui reprend sa saison dimanche en Liga. Le Real Madrid, champion d'Espagne en titre. Le Real Madrid qui, quand même, sort d'une saison assez contrastée. Alors, oui, il y a eu le titre en Espagne, important pour le Real qui a cassé l'hégémonie du FC Barcelone. Mais l'aventure européenne, on sait que le Real Madrid, pour le Real, c'est très important, sans doute plus que pour n'importe quel autre club, la Ligue des Champions, ça s'est arrêté en huitième de finale. Qu'est-ce qu'on peut espérer du Real cette saison, Maxime, ce qui est certain, c'est qu'on est sur une intersaison particulière. Il n'y a pas eu de recrue, notamment. Comment tu vois la saison du Real Madrid qui s'annonce et qui va démarrer ce dimanche, Maxime?
Eh bien, écoute, c'est un grand point d'interrogation. Déjà, première chose, tu dis qu'il n'y a pas eu de mercato, c'est vrai, mais la meilleure nouvelle pour le Real Madrid, c'est sans doute le départ à venir de Gareth Bale. Le golfeur de Castille va repartir à Londres, parce que pour le coup, il ne servait plus à rien, et je pense que dans un vestiaire, avoir un joueur comme ça, c'est jamais très positif. Mais comme tu l'as dit, ça n'a pas empêché le Real Madrid d'être champion d'Espagne. Le Real Madrid a fait un grand restart. À partir du moment où la saison est repartie, le Real Madrid a tout survolé, mais aussi, il faut le dire, a profité de la déliquescence du FC Barcelone, qui avait un titre qui lui tendait les bras et qui a tout gâché parce que les problèmes étaient suffisamment importants pour que ça se termine comme ça. La suite de la saison, la suite de l'intersaison nous l'a montré, et notamment leur dernier match officiel face au Bayern, ce fameux 8-2 qui était humiliant au possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre du Real ? Eh bien, je ne sais pas, tout simplement, parce que on pourrait dire saison de transition. Mais est-ce qu'une saison de transition est imaginable à Madrid ? La réponse est non, c'est absolument pas un argument de vente au Real Madrid. Imaginez que Zidane aille dire « on fait une saison de transition, on va reconstruire sur l'été prochain dont on va parler et qui sera un moment clé ». Ça me paraît pas plausible parce que Marca, ils vont dire oui, c'est très bien pendant deux semaines et au bout de la troisième semaine, ils diront non, c'est pas possible, on n'a pas de saison de transition au Real Madrid. Voilà, et ils se poseront des questions sur Zidane comme tous les trois mois quand il commence à faire deux matchs nuls. Donc ça, c'est pas imaginable. Maintenant, je pense que tu l'as dit, un mercato très, très discret, c'est plus le cas de le dire, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Eden Hazard et qui est peut-être, je l'espère pour lui, je l'espère pour le Real Madrid, la vraie recrue du Real. L'année dernière, ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Un seul but en 22 matchs, et à ce niveau, à 100 millions, c'est quand même, ça ressemble à une arnaque. Mais Hazard est arrivé avec un léger surpoids. Hazard s'est blessé, n'a pas terminé la saison. Et j'ai envie de penser que toute cette période qui a précédé le retour du Real Madrid sera positive pour lui. Alors évidemment, il n'est pas certain, même très incertain, pour le premier match. Mais ce n'est pas ça qui compte, c'est la suite. Et justement, moi, je pars toujours du principe qu'un joueur, quel qu'il soit, que ce soit Hazard, que ce soit un jeune, il a besoin d'acclimatation. Et un an, pour moi, ce n'est pas trop une saison. Ce n'est pas là qu'on doit être définitif sur un joueur, hormis s'il a un comportement exécrable, ce qui n'est pas le cas de Hazard. Donc pour moi, sa première vraie saison, bonne saison, elle doit être là. Et pour moi, autant que Benzema, qui a vraiment porté tout le monde sur ses épaules la saison dernière, c'est à lui de prendre le relais. Voilà, Ronaldo est parti, il est venu pour le remplacer. C'est à partir de maintenant que ça commence. Et si Hazard est au niveau du grand Hazard, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est vraiment lui qui a la clé entre ses pieds de ce Real 2020-2021.
Ah, c'est sûr qu'à le vrai Hazard, ça changerait tout. Parce que il y a des anciens, des valeurs sûres, mais qui vieillissent malgré tout. Et qu'à un moment, il va y avoir un déclin, c'est certain. Hein. Ramos, Modric, Marcelo, Casemiro, Benzema, tout ça, c'est des joueurs qui commencent à prendre de l'âge. Derrière, il y a une jeune garde, mais qui tarde à prendre le pouvoir. Je pense à Militao, Vinicius, Rodrigo, tous ces jeunes sur lesquels le Real a misé et qui auraient dû émerger déjà l'année dernière. Je pense notamment à Vinicius, qui représente un investissement monstrueux, qui a eu un peu sa chance malgré tout. Et cette jeune garde qui a du mal à prendre le pouvoir, il y a toujours l'ombre de Ronaldo qui est présente. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans un espèce d'entre-deux. Ce Real Madrid est dans un espèce d'entre-deux. Tu parlais de saison de transition, pourquoi ? Parce que justement, on a une génération, celle qui a tout gagné, qui prend de l'âge. Et on s'achemine vers quand même un mercato 2021 qui s'annonce celui qui va changer la face du Real Madrid. Ce mercato absolument à 0 €, ce mercato à 0 €, il prépare l'été prochain. Si le Real ne fait pas de folie aujourd'hui, c'est parce que demain, ils vont sortir le bazooka. Alors, la cible numéro 1, c'est évidemment Kylian Mbappé. On le sait, à qui il ne restera plus qu'un an de contrat l'année prochaine s'il ne prolonge pas d'ici là au Paris Saint-Germain. Camavinga aussi, dont on a parlé juste avant dans l'émission. le Real veut se remodeler en 2021. Mais il y a une saison. Il y a une saison. J'ai peur que ce soit une saison de transition. Toi, tu te raccroches à Hazard. Moi, je me raccroche quand même à deux hommes qui ont prouvé jusqu'ici que chaque fois qu'on doutait d'eux, ah ben, ils ont su prendre le Real sur leurs épaules et le monter très, très haut. Je pense évidemment à Zidane. Parce qu'il ne faut pas minimiser son rôle dans tout ce qui se passe au Real Madrid depuis qu'il, bah, son premier mandat et puis depuis qu'il est revenu. Et évidemment, Karim Benzema. Donc, Benzema, Zidane, s'ils restent à leur niveau de management et de performance sur le terrain, et si Hazard, effectivement, redevient le Hazard de Chelsea, ou devient même le Hazard que le Real attend, je pense que en Espagne, en tout cas, ça devrait pouvoir faire l'affaire. En Europe, j'ai peur.
On est d'accord. Je pense que sur l'Europe, sur le papier, là, ça paraît un peu loin. Et encore une fois, c'est pas seulement lié à ce qui s'est passé lors de la dernière campagne. C'est qu'on a l'impression qu'il y a des armadas qui sont peut-être et sans doute plus avancées. Pour ce qui est d'Espagne, ce qui est très difficile pour analyser ça, c'est que, comme tu l'as dit, il y a le Real Madrid, son niveau de performance, mais il y a la maison d'en face, c'est de voir comment la grève va prendre avec Koeman. Donc voilà. Peut-être que le fait que le Barça soit en reconstruction aussi, et là pour le coup, c'est pas aussi d'ailleurs, le Barça est en reconstruction, alors que le Real serait plus sur une transition, bah, ça va peut-être retarder ce FC Barcelone et on se dira que le Real a toujours cette marge d'avance et qu'il sera champion d'Espagne, mais là il est encore trop tôt pour le dire. Maintenant, oui, c'est.
Moi, en tout cas, j'ai plus peur pour le FC Barcelone au départ de cette saison-là que du côté du Real Madrid, qui je trouve, en tout cas de mon point de vue, un tout petit peu plus d'assurance.
Oui.
Barça, j'ai peur que ça explose en fait. Voilà.
Ah, je pense pas. Bon, on va pas. Enfin, on va.
On y reviendra.
Je pense pas que ça explose.
La prochaine, le Barça.
Ouais. Je pense pas que ça explosera. C'est pareil. C'est. Il y a qu'un petit côté excitant avec le Barça. Mais en effet, il n'y a pas de certitude aujourd'hui parce que voilà, on a vu le problème avec Messi. Je pense pas que ça soit réglé en deux coups de cuillère à peau. Griezmann, ses soucis sur le terrain. Donc voilà, il y a d'autres choses à régler, beaucoup plus importantes que dans le vestiaire du Real Madrid, qui pour le coup est un vestiaire qui s'entend. Donc voilà, moi pour moi, ça va vraiment se jouer autour, ça va se cristalliser vraiment autour d'Eden Hazard. Est-ce que Eden Hazard peut revêtir l'habit de lumière pour lequel il est venu au Real Madrid? Voilà, s'il le fait, je pense qu'il n'y a pas de problème parce que je vois pas en quoi il pourrait changer l'équilibre de ce Real Madrid qui, comme tu l'as dit, vieillit aussi au milieu de terrain. Modric, tout ça, ça commence à vieillir. Il faut aussi d'autres repères dans le jeu, d'autres relais. Donc voilà, si ça marche, je pense que ça ira très bien. Mais il y a quand même cette incertitude avec Eden Hazard qu'il faudra lever assez vite pour avoir des débuts de réponse sur ce Real de cette année.
Merci beaucoup, Maxime, pour ton expertise, ton analyse, ta voix suave, ton physique d'Apollon. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Non, ça suffira?
Bon, écoute, oui, on fera avec.
C'est déjà pas mal?
Oui, on fera avec.
On remercie Quentin Visuel, Sébastien à la réalisation. On vous rappelle que si vous voulez retrouver les extraits vidéo, les meilleurs extraits vidéo de cette émission, eh ben vous allez sur eurosport.fr et pour ce qui est de l'audio, l'intégralité de cette émission est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast.
Ouais. Dès le vendredi après-midi, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podinstall, etc. Et vous pouvez quand même retrouver le podcast sur le site internet d'eurosport.fr.
C'est vrai. Voilà.
Vous avez deux bonnes raisons de venir sur eurosport.fr parce qu'il y a aussi la fin du Tour de France ce week-end en vidéo, à l'écrit, partout, il y a du Tour de France donc, et le tournoi de Rome évidemment. Et important, à partir de lundi, en particulier, ça me fait bizarre, aujourd'hui, on est le 18 septembre et je vous annonce qu'à partir de lundi, il y a les qualifs de Roland-Garros. Voilà, je ne sais plus où on en est. Quand quelqu'un réécoutera cette émission dans deux siècles,
Il perdra son temps, excuse-moi, parce que dans deux siècles.
Mais quand il entendra que Roland Garros était au mois de septembre, il se posera des questions, il ira chercher, il comprendra rien du tout. Il se dira qui sont ces deux gars qui parlent de foot pendant à peu près trois quarts d'heure.
On a bien fait de les oublier, les deux.
Ça, c'est un autre débat, voilà.
C'est un autre débat. On espère que dans deux siècles, vous serez toujours là. Nous, en tout cas, on sera là la semaine prochaine. Et on vous donne rendez-vous vendredi prochain. Salut à tous.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.